BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, nous avons alors Bruno Le Maire qui a encore fait la retape aujourd'hui, comme on dit, des batteries électriques made in France. Et il a fait ça, figurez-vous, en terre bretonne, sur les terres de Vincent Bolloré. Mais on va vous raconter tout ça dans un instant. Sinon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Le chômage n'a pas augmenté, n'a pas baissé. Il est resté stable au premier trimestre en France. 7,5% de la population active, nous a dit l'INSEE ce matin. On va parler de ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure. Avec eux, on parlera aussi de la Chine, qui ne se pose plus vraiment de questions pour relancer le secteur immobilier. Le pouvoir central, en fait, va demander carrément aux collectivités locales d'acheter des logements qui sont aujourd'hui inoccupés. Et puis, alors, on ira faire un tour du côté des États-Unis où a démarré, figurez-vous, il y a une heure, l'Assemblée générale des actionnaires de Boeing. Sur le papier, il y a de quoi penser que ça peut dégénérer. On demandera à Antoine Delard comment tout ça se passe une heure après. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 19h, heure à laquelle vous retrouvez, bien sûr, les pionniers chez Fred Mazzella. Très bonne soirée sur BFM Business.
Good evening business, le journal.
Donc Bruno Le Maire qui ne lâche rien sur le véhicule électrique. Aujourd'hui, il était à près de Quimper sur les terres de Vincent Bolloré. Le groupe Bolloré qui a officialisé en fait son projet de gigafactory de batteries de nouvelle génération. C'est un symbole fort de la réindustrialisation française, a dit Bruno Le Maire tout à l'heure. Écoutez.
Dans une filière qui n'existait pas il y a 5 ans. Nous ne produisions pas une seule batterie électrique en France. Par la seule volonté industrielle et politique, nous allons recréer une nouvelle filière industrielle qui va représenter d'ici 10 ans 20 000 emplois industriels dans notre pays. C'est ça la France. La capacité à se redresser, à se réinventer, à se projeter dans l'avenir et à ne pas systématiquement se jeter des sacs de cendre sur la tête en se disant que tout est fini, que c'est la délinquance et que nous n'avons plus d'avenir devant nous. Si nous avons un avenir industriel devant nous, nous tirons les leçons de nos erreurs, nous reconstruisons notre industrie.
Voilà, c'est ça la France, disait Bruno Le Maire tout à l'heure à côté de Quimper. Alors cette nouvelle gigafactory qui sera en fait bâtie du côté de l'Alsace, que l'État va en partie financer, elle est partie pour être la 5e implantée en France. Au passage, c'est un nouveau départ pour la famille Bolloré et sa filiale Blue Solution qui a connu bien des mésaventures par le passé. Justine Vassogne.
C'est l'une des idées fixes de la famille Bolloré, la batterie solide, lithium, métal, polymère. Ils y travaillent depuis des années. Cyril Bolloré.
Tout le monde cherche le solide, tout le monde a des progrès encourageants sur ses cellules de test. Mais nous sommes, je le rappelle encore une fois, les seuls au monde à l'avoir industrialisé.
Le groupe Bolloré a pourtant déjà perdu 3 milliards d'euros avec ses batteries et subi de nombreux échecs. Le plus cuisant, celui des Blue Cars et d'Autolib. Le service d'autopartage, largement déficitaire, a brutalement fermé ses portes en 2018. 2 ans plus tard, Bolloré sort de bourse Blue Solutions en pleine déconfiture. Aujourd'hui, le groupe ne fournit ses batteries que pour des bus électriques en Allemagne et en France. Mais il a récemment signé un partenariat avec le Taïwanais Foxconn, ainsi qu'avec BMW, il travaille sur une batterie de 4e génération.
Nous en sommes déjà à la création des premiers prototypes, une cellule, et qui apportera encore des bienfaits supplémentaires, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus d'autodécharge si vous laissez votre voiture 2 semaines dans la rue, qui se décharge progressivement, et le fait de pouvoir charger rapidement.
La Gigafactory de Blue Solutions devrait voir le jour à Mulhouse en 2030. Si certains considèrent la batterie solide comme l'avenir de la voiture électrique, d'autres sont plus dubitatifs et estiment que cette technologie est loin d'être mature.
Voilà, la revanche de Blue Solutions et de la solution de Vincent Bolloré. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Et puis alors concernant la Nouvelle-Calédonie, Bruno Le Maire qui était donc à Quimper aujourd'hui. Bruno Le Maire a fait savoir ce matin qu'il recevrait les assureurs à Bercy la semaine prochaine pour s'assurer que l'indemnisation des personnes victimes de dégâts serait, je cite, rapide et juste. Voilà les mots qu'a employé Bruno Le Maire aujourd'hui. En France, toujours le taux de chômage est resté stable en France au premier trimestre par rapport au précédent. 7,5% de la population active, nous a dit l'INSEE ce matin. Je vous disais, on en reparlera tout à l'heure avec nos experts. Et puis en France, toujours attention, en région parisienne, mardi prochain, le trafic sera très perturbé sur l'ensemble des RER et trains de banlieue qui sont exploités par la SNCF. Les cheminots franciliens appellent à la grève pour faire pression sur la direction. Vous savez qu'on est en train de négocier le montant des primes qui seront distribuées aux agents de la SNCF qui seront mobilisés à l'occasion des Jeux Olympiques l'été prochain. 18h04, on va partir en Chine, où je vous le disais, on a décidé d'employer les grands moyens pour essayer de relancer le secteur immobilier. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir Guillaume.
Le pouvoir central a convoqué tout le monde, hein, les autorités locales, les acteurs du secteur immobilier, les banques, parce qu'il fallait faire des annonces tant ce secteur pèse aujourd'hui, Alexandra, clairement.
Effectivement, le secteur du logement, de la construction représente plus d'un quart du PIB de la deuxième économie mondiale. Mais le durcissement par Pékin des conditions d'accès au crédit pour les promoteurs immobiliers afin de réduire à ce moment-là leur endettement en a poussé certains à la faillite, parmi eux Evergrande ou Country Garden. Résultat, des quartiers entiers de logements non terminés sont à l'abandon en Chine, suscitant la colère des acheteurs qui bien souvent ont dû payer en avance. Les prix sont donc en chute libre et les Chinois plutôt frileux à l'idée, Guillaume, d'investir dans la pierre. On peut les comprendre.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'a annoncé Pékin il y a quelques heures ?
Alors, traiter une bulle immobilière à la chinoise reste finalement assez simple. Idée globale, une intervention des autorités pour réguler le marché. Acte 1, accélérer le traitement des projets de logements en cours de construction qui ont été vendus et non livré. Acte 2, confier aux provinces, relativement bien dotées financièrement, l'achat de certains logements dans les villes où il en existe un grand nombre, à un prix raisonnable, pour les utiliser comme des logements abordables, dixit le vice-premier ministre chinois. En clair, les collectivités locales rachètent des biens et les louent sans forcément rentabiliser l'investissement. Et enfin, acte 3, réduire l'apport minimum exigé par les banques pour une première acquisition à 15% minimum. Et 15%, c'est le taux le plus bas en Chine de toute l'histoire du secteur.
Il faut rappeler ce chiffre, et vous l'avez fait, ça pèse 25% du PIB, l'immobilier aujourd'hui en Chine. Donc, secteur absolument prépondérant. Merci beaucoup, Alexandra. Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Et puis, alors, je vous disais, ça a débuté il y a une heure aux États-Unis, l'Assemblée générale des actionnaires de Boeing. Bonsoir Antoine Hollard, vous la suivez, vous, depuis Washington. Sur le papier, il y a tout pour que ça dégénère. Bonsoir. En pratique, comment ça se passe depuis tout à l'heure, Antoine ?
Écoutez, ça se passe bien mieux que prévu pour la direction. En fait, la partie la plus importante de l'Assemblée Générale a été rapidement expédiée. Ça a duré moins d'une demi-heure. Et surtout, la direction a échappé à un vote sanction. En fait, il y avait deux points à l'ordre du jour qui faisaient hurler certains investisseurs. D'abord, l'avenir du patron, Dave Calhoun. Vous savez qu'il va quitter son fauteuil de PDG à la fin de l'année, mais il veut continuer à siéger au conseil d'administration. Et ça fait débat. Certains estiment qu'il faut donner un grand coup de balai pour repartir sur de meilleures bases. Et puis, l'autre sujet litigieux, c'est la rémunération du patron. Dave Calhoun doit toucher cette année 1,4 million de dollars plus 30 millions sous forme d'actions, beaucoup trop aux yeux de certains, surtout pour un patron qui a conduit l'entreprise dans le mur. Mais finalement, ces rebelles n'ont pas été suivis. Les actionnaires ont réélu Calhoun au conseil d'administration et sa rémunération a été validée. Il touchera bien les millions qui étaient prévus. Alors pour le moment, Boeing ne donne pas le détail du vote. Il sera intéressant de voir combien d'actionnaires ont voté contre. Mais après toutes les turbulences que Boeing traverse depuis le début de l'année, cette Assemblée Générale, c'est quand même une petite accalmie pour l'industriel.
Finalement, ça s'est bien passé. Merci beaucoup Antoine Hollard, donc à Washington, pour BFM Business. Dans le sud de la France, le groupe Mili, on est dans le domaine de la distribution de publicité, dans le domaine des prospectus en fait. Le groupe Mili a demandé aujourd'hui à être placé en redressement judiciaire. C'est un groupe qui emploie 9000 personnes à temps plein ou à temps partiel. Vous en doutez, le marché du prospectus a fondu, il a diminué de 50% l'espace de quelques années, évidemment. Et puis, côté entreprise, il y a du changement chez Richemont, numéro 2 mondial du luxe, je vous le rappelle. Richemont a un nouveau patron, en fait c'est celui de Van Cleef & Arpels qui prend du galon, qui va devenir DG le 1er juin prochain. Il arrive dans une période de forte turbulence pour le groupe suisse. Pauline Tadevin.
Il aura la lourde tâche de piloter Richemont dans la prochaine phase de son évolution alors que le secteur du luxe ralentit. Le français Nicolas Boss, 51 ans, dans le groupe depuis plus de 30 ans, a été adoubé ce matin par son grand patron, le sud-africain Johan Rupert, qui salue ce qu'il a fait ces dernières années à la tête de Van Cleef & Arpels. Sa vision et sa capacité à perpétuer la tradition d'excellence et de créativité de cette maison ont été décisifs pour atteindre une croissance remarquable, d'après Johan Rupert, 73 ans, qui assure que lui-même lui-même ne raccroche pas pour autant les crampons, mais qu'il avait besoin de déléguer certaines tâches. Il donne ainsi plus de pouvoir à son directeur général pour optimiser, dit-il, le management opérationnel. Le prédécesseur de Nicolas Boss récupère le poste de directeur des opérations et il y a aussi un nouveau vice-président du conseil d'administration. Cette vague de changement relance la question de la succession de Johan Rupert, écrit un analyste de City, alors qu'en parallèle persistent aussi des rumeurs sur d'éventuelles opérations de consolidation, plusieurs fois démenties par le patron de Richemont.
Voilà un nouveau patron qui arrive chez Richemont. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. 18h09. On va sur les marchés. Tout de suite. Retrouvez Étienne Brac qui nous attend comme tous les soirs avec bienveillance du côté de Euronext. Bonsoir mon cher Étienne. On a terminé la semaine dans le rouge. Dans le rouge sur l'indice parisien.
En effet. Pas de record ce soir, contrairement au début de semaine. Le CAC 40 aligne deux séances dans le rouge et il perd ce soir 0,26% sous les 8200 points, 8167 points. Dès ce matin, c'était du rouge avec en plus des problèmes immobiliers en Chine, une consommation qui n'est toujours pas là. Les Chinois ne consomment toujours pas. Figurez-vous que les ventes au détail n'ont progressé que de 2,3% le mois dernier alors que les analystes s'attendaient à 3,7%. Donc vous voyez, il y a vraiment un grand écart entre la réalité et ce qu'attendaient les investisseurs. Suite à cela, vous avez les valeurs cycliques qui sous-performent ce soir et puis aussi le secteur du luxe puisque en dehors de cette nomination importante chez Richemont, eh bien, vous avez des commentaires par rapport à la Chine et son patron qui estime eh bien, que la demande en Chine tarde à se redresser et qu'il va falloir être patient. Suite à cela, vous avez Kering qui perd 2,7% ce soir, la clôture à 332 euros et puis à noter l'once d'or qui est à nouveau au-delà des 2400 dollars dans un contexte où le marché hésite à acheter eh bien, la bourse dans un contexte où bien sûr vous avez des records historiques à Wall Street mais aussi à Paris, au-delà des 2400 dollars donc l'once d'or avec une hausse d'un peu plus de 1,2% et puis autre valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui, Engie qui est l'une des rares sociétés à dévoiler ses résultats en ce moment, on est dans le dernier rang notamment avec des résultats qui sont ressortis eh bien, en forte baisse en termes de chiffre d'affaires mais une rentabilité qui tient grâce notamment aux activités de trading et le titre qui est légèrement sous les 16 euros, 15,77 euros pour Engie et donc un CAC 40 qui clôture en baisse ce soir moins 0,26% au fixing, légèrement sous les 8200 points à 8167 points.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Brac donc à Euronext avec nous tous les soirs sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est bien sûr à la mi-séance aux États-Unis. C'est calme sur le Dow Jones, plus 0,1%, 39 905 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est alors lui quasiment stable effectivement, 16 695 points. Tout ça à la mi-séance bien évidemment. 18h12, on revient dans un instant avec les experts, encore beaucoup de choses à raconter ce soir d'ici 19h bien sûr. Le chômage qui restait stable au premier trimestre, la fin de la visite de Vladimir Poutine en Chine, on va en parler. Et puis Bruno Le Maire qui est encore allé faire de la retape aujourd'hui pour les batteries électriques Made in France, il a fait ça sur les terres de Vincent Bolloré. Tout ça, plus bien d'autres réjouissances, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h15, ils sont là, nos experts, pour refaire l'actu économique jusqu'à 19h sur BFM Business. François Girolf est avec nous. François, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, économiste à l'OFCE. Xavier Patrolin est avec nous. Xavier, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Président d'Albatros Capital, Nicolas Marquez est avec nous. Nicolas, bonsoir. Bienvenue bonsoir, également, Guillaume. Directeur général de l'Institut économique Molinari. On a évidemment encore beaucoup de choses ce soir à raconter ensemble. À commencer, alors, est-ce une bonne, est-ce une mauvaise nouvelle? C'est à vous de me dire. On a vu passer les chiffres du chômage en France pour le premier trimestre aujourd'hui. On est stable. 7,5% de la population active, nous a dit l'INSEE ce matin. Compte tenu du ralentissement économique en cours, c'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle? François, comment est-ce que vous le regardez, ce chiffre, pour vous?
C'est plutôt une bonne nouvelle, puisque le taux de chômage était en train d'augmenter.
Ouais.
Donc c'est une inversion de la courbe, si on repense à cet épisode compliqué.
Épisode bien connu, oui.
Pour un président précédent. Donc non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir que il y a toujours une grande question de pourquoi l'emploi est aussi dynamique alors que la production ne l'est pas. Ça veut dire que la productivité est en baisse très rapide. Donc ça, c'est plutôt du côté des mauvaises nouvelles. La production manufacturière, par exemple, est en baisse de 5%, alors que l'emploi manufacturier, c'est vrai, est en légère augmentation. Donc c'est vrai que la productivité est en baisse de 8% depuis 2019, depuis le Covid. Et donc, la grande question, c'est de savoir pourquoi.
Et on n'a pas la réponse à cette question.
On a des défis de réponse.
qu'est-ce qui fait que ça tient?
On a des débuts de réponse, on a en fait des emplois assez peu productifs, on a l'apprentissage évidemment qui soutient beaucoup l'emploi et qui c'est attendu que ce soit pas aussi productif, les jeunes en apprentissage déjà ne sont pas sur les temps complets, ils ont un temps de formation, il y a besoin de gens pour les former. Après il y a la question du télétravail, il y a la question des jours d'absence, il y a plein de choses. L'INSEE apparemment va sortir bientôt une étude plus complète, donc je l'attends avec grande impatience en juillet, je crois. Ils vont souvent nous en dire un peu plus sur ces chiffres de productivité.
La réponse, Xavier, qu'est-ce qui fait que ça tient, que l'emploi tient tant bien que mal en France, finalement, à 7,5% de la population active?
Ah, c'est un vrai sujet, ça. C'était pas tout à fait au programme. On va répondre. Je pense que depuis le Covid, au fond, le Covid, c'est un accélérateur de l'histoire pour tous les marchés du travail occidentaux. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe. Donc, il se passe plusieurs choses. Il y a le vieillissement démographique qui joue et qui, au fond, il y avait une tendance. Et au fond, le Covid va accélérer non pas le vieillissement démographique, mais va révéler le vieillissement démographique. Donc beaucoup d'entreprises, moi je suis frappé de voir que les sondages de rareté pour les recrutements restent à des niveaux très élevés. Hein. Et vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous avez une conjoncture qui est flat ou qui est faible, d'accord, on est d'accord. Mais vous avez des problèmes de recrutement.
Oui.
Ils ont légèrement reflué, mais très léger.
Toujours
au
fond,
les entreprises, il y a des filières où c'est spectaculaire. C'est même pas au niveau français, c'est au niveau européen. C'est Mario Draghi, dans son discours, qu'il a prononcé il y a 4-5 semaines, qui évoquait 29 secteurs en Europe où les pénuries sont à plus de 75%. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise au niveau européen, hein, l'Union européenne, décrète à plus de 75% est en situation de difficulté de recrutement. Donc, donc vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous avez une conjoncture qui est plutôt faible, mais vous avez devant vous une amélioration pour 2025-2026. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la rétention parce que vous avez le traumatisme du Covid. L'expérience du Covid, c'est un traumatisme pour beaucoup de chefs d'entreprise.
Regardez.
Donc on a passé d'une situation où on était excédentaire, où au fond on était dans une espèce de fluidité avec un taux de chômage structurel. Alors on va boucler sur le sujet avec un taux de chômage qui est plus faible. Bon, on a des spécificités françaises notamment chez les jeunes, mais on reviendra là-dessus. Mais globalement, on a une capacité de rétention des chefs d'entreprise. Donc vous placez là-dessus.
Gardez vos salariés. Voilà.
Voilà, et donc mécaniquement, alors est-ce que c'est très grave la chute de la productivité? Oui, si elle devient structurelle. Moi, pour l'instant, c'est une courbe en J. Je veux dire, je vais me placer du point de vue de l'investisseur. C'est une courbe en J des réformes et au fond du site France, du fameux Choose France que tu as connu en début de semaine. Si tu as des phases d'investissement, si tu investis dans un site industriel, capital humain, mais une usine, elle ne monte pas en régime tout de suite. Donc, dans un premier temps, il y a la courbe en J. Tu es en perte, y compris en perte de productivité, et la montée de productivité va venir que très progressivement. Donc, moi, je serais inquiet si, à horizon 3-4 ans, on a toujours cette baisse de productivité, mais j'ai plus l'impression de voir une économie française qui réinvestit la dimension industrielle, où, au fond, la France était un peu en retard. Et puis, bon, il y a l'autre aspect du problème, c'est que probablement, on continue à créer pas mal d'emplois, parce que les emplois industriels, c'est un emploi industriel pour 10 emplois de service, et malheureusement, dans les emplois de service, là, on a une faible productivité. Ça, c'est vrai. Mais globalement, je pense qu'il faut un peu relativiser ce facteur de productivité.
Alors, Nicolas est venu avec des graphiques.
Oui.
Pour tirer des enseignements quand même intéressants de ces chiffres du chômage qui sont tombés ce matin. Il faudra les décrypter pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, Nicolas. On va aller voir à l'instant. Évolution de la courbe du chômage, est-ce qu'on peut montrer? Voilà, alors ça c'est le taux d'emploi en France, c'est un chiffre primordial, taux d'emploi en France par tranche d'âge.
Voilà, c'est le taux d'emploi. Donc ça vous dit quelle est, par tranche d'âge, la proportion des personnes qui ont un emploi. Et la bonne nouvelle, c'est que le taux d'emploi des seniors, les seniors c'est les plus de 50 ans, ne cesse d'augmenter depuis des années. Et ça c'est quelque chose de très très bon. Les plus de 50 ans, ils sont 67% à avoir un emploi. Alors, c'est moins que les 24-49 ans qui sont 83% à avoir un emploi et c'est beaucoup plus que les jeunes, les 15-24 ans qui sont 35% à avoir un emploi. Alors pourquoi ce taux d'emploi des seniors remonte et pourquoi c'est important? Parce que de temps en temps dans les débats on vous dit si on recule l'âge de la retraite ça va créer du chômage et donc c'est pas la solution. Mais ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que plus on recule l'âge de la retraite, plus le taux d'emploi des seniors augmente. Et donc, c'est vraiment une idée fausse de croire que reculer l'âge de la retraite, ça n'aurait pas d'effet. Et d'ailleurs, je précise, c'est un peu polémique, mais c'est une idée qui est un peu antinomique avec la répartition. Ouais, parce que la répartition, c'est ceux qui peuvent travailler financent les retraites de ceux qui ne peuvent pas travailler. Ouais. Et donc, c'est tout à fait acceptable que tout le monde ne puisse pas travailler beaucoup plus longtemps, parce qu'il y a des métiers où il faut s'arrêter plus tôt. Mais à ce moment-là, il faut que ceux qui peuvent travailler plus longtemps financent ça. Alors, c'est, j'ai envie de dire que c'est le retour au bon sens économique. Hein, parce qu'à l'écran, pour les auditeurs qui sont devant leur télévision, on voit le taux d'emploi des 50-64 ans. Il était très élevé dans les années 70. Mmh. Hein, il était aux alentours de 58%. Et il a baissé dans les années 80 et 90. C'est le phénomène des pré-retraites.
Des pré-retraites, c'est le phénomène
De l'avancée de l'âge de la retraite. Ouais. Et, alors pourquoi il était très élevé dans les années 70? Parce que c'était des petites retraites. Les gens dans les années 70, ils sont nés dans les années 1910-1920, ils avaient des petites retraites par répartition. Pourquoi le taux d'emploi des seniors a baissé dans les années 80-90? Parce qu'on a utilisé la retraite comme un moyen de traitement social du chômage. Vous savez, à l'époque, on croyait que mettre les gens à la retraite, ça allait résorber le problème du chômage. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Et pourquoi le taux d'emploi va continuer à augmenter? C'est parce que, d'abord, on a des seniors qui sont en bonne santé, et ça c'est important.
Progrès de la science.
Ensuite, accessoirement, on a des déficits et donc on fait toutes ces réformes des retraites.
Ouais.
Et surtout, dans le demi-siècle à venir, le pouvoir d'achat des retraités va baisser.
Et, oui.
Et on va revenir dans notre monde de petites retraites des années 70. Et donc les gens vont être incités à travailler plus longtemps. Voilà, donc j'ai envie de dire, le chômage est stable, c'est une bonne nouvelle. La vraie bonne nouvelle structurelle, c'est que le taux d'emploi des seniors augmente, et ça c'est très très important.
Et si on améliore le taux d'emploi des seniors, on sait qu'on résout une partie de nos problèmes de retraite, c'est ce qu'on nous explique à longueur de temps finalement, c'est ça.
Qu'une partie, parce qu'on a problème,
ouais.
Qui est que en France, on a intégralement financé nos retraites en répartition.
Oui.
Et la répartition, elle dépend de la natalité. Et quand vous avez peu de natalité, vous avez intérêt à diversifier votre mode de financement et avoir une dose de capitalisation collective.
Voilà. On l'attendait.
Voilà.
On attendait le bon mot, Nicolas. Voilà,
il s'agit de fonctionner sur deux jambes quand on veut aller loin.
François, un mot encore là-dessus.
Peut-être pour.
On va revenir aux années 70, nous dit Nicolas.
Oui, je ne sais pas. Donc,
il n'y a pas de court terme, quand même.
Il y a une vraie question à court terme. C'est vrai que les emplois qui sont, enfin, sur lesquels, du coup, ceux qui auraient dû partir à la retraite restent, du coup, ils laissent moins la place pour les jeunes. Donc, à court terme, quand même, ce qu'on observe empiriquement, c'est que ça rend l'entrée sur le marché du travail des plus jeunes potentiellement plus difficile. Sur le taux d'emploi, c'est pas forcément contradictoire avec une hausse du chômage, puisque vous faites entrer des gens dans la population active. En fait, vous augmentez la durée et la taille de la population active. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Et je pense d'ailleurs que ce qu'on voit, c'est que la hausse du taux d'emploi est due en grande partie aux réformes des retraites qui se sont succédées et qui vont dans le même sens, et c'est pas forcément voilà.
Ouais, mais là ce qu'on voit, François, c'est que les deux taux d'emploi des jeunes et des seniors augmentent. Donc ça montre là aussi que l'argument consistant à dire si on fait travailler plus longtemps les seniors,
mais ce qu'il faudrait voir, c'est le taux de chômage des jeunes.
Est limité quand même.
Parce que le taux d'emploi, c'est donc l'emploi divisé par non pas la population active.
Oui, mais
par la population.
Et le taux d'emploi augmente
donc,
des deux côtés.
Ça varie aussi à cause de la population.
Xavier, pour conclure là-dessus.
Le taux d'activité des jeunes reste quand même relativement faible. Alors on compare des situations qui ne sont pas comparables entre le début des années 70 et aujourd'hui au niveau du champ d'études, mais dans la stade de l'INSEE, justement, il y a la part des jeunes qui sont même pas au chômage, qui sont
NITS, ce qu'on appelle les NITS.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et on est quand même à 12-13%.
Ouais.
Et donc là, je trouve qu'il y a quand même une singularité française sur notre système éducatif. Et ça, je pense que ça reste un problème. Alors, il y a eu des améliorations, mais ça reste, me semble-t-il, un point de très grande faiblesse, notamment si on veut être dans une logique de réindustrialisation. Parce que ça, clairement, c'est l'actif le plus précieux. Je dis pas que les 50-65 ans sont pas un actif précieux, loin de là. Mais j'observe quand même. Alors, il faudrait rentrer vraiment dans une analyse extrêmement fine. Mais le taux de participation, et quand on fait des comparaisons alors si par exemple on se compare avec nos amis d'Outre-Rhin, notre partenaire d'Outre-Rhin, ils ont un cadre, comment dire, éducatif qui a rien à voir, puisque l'apprentissage est quelque chose qui est généralisé. Donc là, forcément, on a des taux de participation plus élevés. Mais il y a peut-être des choses à apprendre. Là, on a fait une réforme de l'apprentissage qui a été, on a arrosé le désert à fond. Et tant mieux.
Ce sont autant de jeunes qui ne sont pas dans les
chômages. Voilà, exactement. Hein, voilà, mais malgré tout, il y a quand même de la perte en fuite. J'avais recalculé, je disais des chiffres un peu erronés. D'ailleurs, je m'en excuse auprès de ceux qui ont pu m'écouter à l'époque. Je disais qu'il y avait dans le système, il y avait tous les ans 120 000 gamins qui quittaient le système scolaire. Alors, je m'étais trompé, mais très largement, puisque j'ai recalculé les chiffres, c'est un peu moins de 60 000. Il y a eu une amélioration, d'accord ? Mais il y a quand même entre 55 000 et 60 000, essentiellement des garçons, qui quittent le système scolaire sans formation. Et probablement, c'est là-dessus, pas uniquement, mais c'est cette population-là, pour toute une série de raisons, hein, peut-être qu'ils sont intéressés par l'économie parallèle, ou toute une série de facteurs qui peuvent juste. Mais c'est cette population-là sur laquelle il faudrait se concentrer, parce que des gamins qui quittent trop tôt le système scolaire, ça risque d'être sur une vie entière des gens qui vont à un parcours professionnel extrêmement difficile.
On parle de Cénith, c'est 1 million de gamins, donc on considère qu'ils sont ni scolarisés, ni en formation, ni en stage,
sur une génération,
ni rien, ils sont dans la nature.
Sur une génération, c'est pas rien.
Oui, François.
Sur le deuxième sujet que vous avez ouvert, sur la capitalisation, le problème, c'est la transition. C'est comment vous faites pour passer d'un système par répartition où vous avez des gens qui ont cotisé et qui attendent des retraites, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une double cotisation.
C'est François, je crois que nos amis allemands qui savent calculer ont trouvé la solution, et elle est bien française, c'est financer la montée en puissance par de l'endettement. Et même financer par de l'endettement, c'est rentable.
On est d'accord, ça va faire un endettement.
Les Allemands le disent, et quand les Allemands louent l'endettement, c'est que c'est vraiment intéressant. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête de dire ça. Ça fait 40 ans qu'on dit ça en France.
Les dépenses de retraite, c'est 13% du PIB par an. Oui, ça va vous faire 13% de déficit supplémentaire par an.
Bien sûr, mais ça fait 40 ans qu'on dit « oulala, c'est difficile », et ça fait 40 ans qu'on ne traite pas le problème. Et finalement, la seule solution qu'on applique, c'est de reculer l'âge de la retraite. Ça, on ne pourra pas le faire indéfiniment. Et reculer l'âge de la retraite quand la démographie n'est pas là. Pour équilibrer le régime des fonctionnaires, je vous donne un exemple, il faudrait reculer l'âge de la retraite des fonctionnaires au-delà de 70 ans. Bon, donc, il y a une autre solution, c'est de commencer à le provisionner.
Bien sûr.
Voilà.
Bon, tout ça pour dire que le taux de chômage à 5% en 2027 que nous vendait Emmanuel Macron, ça soit dessus, c'est terminé, ça, cette histoire, hein, très clairement.
Ça semble très ambitieux. Mais par contre, on va continuer. Il y a la réforme des retraites, comme l'a dit François, la réforme des retraites, elle a un petit effet de palier sur l'année 2024, probablement un chouï sur 2025. Mais on a quand même, en perspective, sans être nécessairement d'un optimisme béat sur la conjoncture, une amélioration. Il y a deux facteurs qui vont jouer pour la conjoncture française. Hein, c'est-à-dire, on va passer d'une demande externe qui joue un rôle essentiel sur 2023, à une demande interne qui va jouer plus de rôle, tout simplement parce que l'inflation reflue et les salaires vont passer au-dessus, donc gain en pouvoir d'achat, ça c'est le premier point. Et puis l'impact progressif de la baisse des taux, la première baisse des taux courts de la BCE aura lieu début juin, elle n'aura le plein effet que fin 2025, c'est deux facteurs qui vont jouer, donc on peut envisager une conjoncture 2025-2026 un peu meilleur, on va dire, sans être nécessairement très optimiste. Et donc là, c'est des facteurs qui vont à nouveau jouer.
Avec un point d'interrogation sur la politique budgétaire. Normalement.
Évidemment, tu as raison de le mentionner. Donc, c'est l'élément qui pourrait minorer.
Je crois que de mémoire, la Banque de France voit le taux de chômage fin 2025 à 8,2-8,4% de la population active. Donc on est quand même parti pour.
Ah, ça serait une grosse dégradation.
Je crois que c'est les prévisions de la Banque de France, un peu de choses près.
Ça serait une grosse dégradation.
Oui, d'accord. Voilà.
Un petit effet multiplicateur, quand même.
Effet multiplicateur. 18h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h34, on est de retour, les experts, jusqu'à 19h avec Xavier Patrolin, avec Nicolas Marques, avec François Girolf. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la visite de Vladimir Poutine qui est en train de s'achever là du côté de la Chine? Il était à Pékin hier, il était dans le sud-est du pays aujourd'hui pour faire des opérations de promotion autour du commerce. Il était reçu en grande pompe. Il y a eu cette phrase hier, ce communiqué commun, l'axe Moscou-Pékin est un axe de paix et de sécurité, est un facteur de paix et de sécurité dans le monde. Est-ce que Xi Jinping, après être passé rapidement en France, nous fait pas un petit pied de nez en recevant Poutine pour la deuxième fois en 6 mois quand même, faut le dire. Hein,
Il a une très forte, Xi Jinping a une très forte activité diplomatique depuis 3, 4, 5 semaines. Hein, il est vraiment très présent. Il reçoit Elon Musk. C'est une très grosse activité diplomatique. Ce qu'on peut dire, il y a la partie officielle et la partie officieuse. La partie officielle, c'est celle qui est décrite, une alliance. Et donc, il choisit, entre guillemets, l'allié russe. Je pense qu'en coulisses, les choses doivent être probablement plus tendues. Et j'ai l'impression que Xi Jinping essaye, avec difficulté, d'avancer une solution diplomatique. Mmh. Pourquoi ? Parce que les Américains ont simultanément exercé une très grosse pression sur le système bancaire chinois.
Oui.
Et ça a été reçu, à mon avis, 5 sur 5 par Xi Jinping, qui a un problème majeur, en faisant très court, vieillissement démographique, surcapacité de production. Et donc, il y a un besoin impératif de commercer avec le reste du monde. Ça, pour l'instant, ça se
et
passe
aussi l'Europe, et aussi l'Europe.
Oui, mais ça se passe mal avec l'oncle Sam, hein, puisque oui. Joe Biden a décrété des hausses tarifaires, notamment sur le secteur automobile. On en parlera dans la suite de l'émission. Et donc, l'Europe, c'est un point important. Et donc, si Xi Jinping veut continuer à commercer avec le reste du monde, il faut impérativement, et notamment avec l'Europe, il faut impérativement que la pression qu'exerce Vladimir Poutine sur l'Europe au travers de l'Ukraine se calme. Alors ça tombe bien d'une certaine façon parce que l'Ukraine est probablement en train de peut-être de perdre la partie.
Oui.
Peut-être qu'on se rapproche d'une solution entre guillemets. Et donc je dirais qu'en coulisses, je serais pas surpris que Xi Jinping, mais je n'en sais rien, je n'y étais pas évidemment, et personne ne le sait à ce stade, mais que Xi Jinping ait avancé quelques pions pour une solution diplomatique qui réunirait à la fois l'empire du milieu et l'empire ottoman pour favoriser dans le moyen terme, peut-être même avant l'élection américaine. Enfin, donc c'est pour ça qu'elle est importante cette visite. Il y a quand même, il faut se poser la question, pourquoi Poutine, à peine réélu, première visite qu'il fait, alors c'est, il renvoie l'ascenseur, il se bigophone, paraît-il, tous les 3-4 semaines. Hein, donc ils ont des relations relativement intenses. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être une négociation plus importante derrière.
C'est
mon intuition, mais c'est un feeling.
Les Chinois n'ont pas intérêt à la guerre, de toute évidence, Nicolas Marques. On est d'accord là-dessus.
Oui, ils n'ont pas d'intérêt à la guerre. C'est un petit aspect pied de nez j'avoue que j'ai pas, contrairement à Xavier, une analyse aussi fine. Donc, pour moi, je fais joker là sur ce sujet-là.
Sur ce coup-là. François.
Non, ça donne l'impression que les ennemis de mes ennemis sont mes amis.
Oui.
C'est vrai que jusqu'ici, c'est un grand changement de cette guerre aussi russo-ukrainienne. C'est vraiment de voir cette alliance entre la Chine et la Russie qui n'était pas forcément évidente au départ. Et puis, il y a des intérêts économiques. Évidemment, la Chine a acheté très peu cher le gaz à la Russie, ce qui d'ailleurs affaiblit beaucoup la portée de nos sanctions économiques. Je pense que
Poutine veut pousser plus loin maintenant la coopération économique avec la Chine sur d'autres domaines, sur l'intelligence artificielle, sur la technologie.
Et il importe.
La transition énergétique.
La Russie importe énormément de voitures chinoises donc effectivement, il y a un partenariat qui se noue, ce qui veut dire que la Russie a l'air de se tourner plutôt vers l'Est, effectivement, alors qu'à un moment, c'était pas totalement évident avec l'Allemagne. Donc recomposition géopolitique un peu du monde.
Deuxième visite donc de Vladimir Poutine en Chine dans l'espace de 6 mois. Puisqu'on parlait d'automobile, on va y aller. Bruno Le Maire, en terre bretonne aujourd'hui, sur les terres de Vincent Bolloré à Ergué-Gabéric, c'est à côté de Quimper. C'est le berceau de l'Empire Bolloré. Hein. Attention, hein, c'est pas rien. Là-bas, Bolloré a confirmé aujourd'hui son projet de créer une gigafactory de batteries, notamment pour l'automobile, qui sera basée en Alsace. Il y aura un autre site en parallèle qui sera du côté d'Ergué-Gabéric. Et alors, vous avez Bruno Le Maire qui a fait le déplacement, qui n'avait pas de mots assez forts pour saluer la France qui se réindustrialise à tout va. Écoutez Bruno Le Maire ce matin.
Ici va s'ouvrir un site pilote qui va être opérationnel à partir de 2026. 230 emplois, des emplois qualifiés, des emplois bien rémunérés. Un peu plus loin, à l'est, chère Valérie Debord, une gigafactory va s'ouvrir dans le Grand Est, dans l'agglomération de Mulhouse. Elle sera opérationnelle vers 2029-2030. Elle représentera 1500 emplois. Et au total, dans une filière qui n'existait pas il y a 5 ans, nous ne produisions pas une seule batterie électrique en France. Par la seule volonté industrielle et politique, nous allons recréer une nouvelle filière industrielle qui va représenter d'ici 10 ans 20 000 emplois industriels dans notre pays.
Ça fera donc 5 gigafactories une fois que celle-là sera sortie de terre dans le courant des années 2030. Voilà. Et Bruno Le Maire de Bombelle-Torse aujourd'hui. Ça vous faisait un petit peu sourire, Xavier.
Oui, alors deux choses. Parce que la première, quand j'ai lu, je me suis dit, mais ils vont pas faire une gigafactory en Bretagne. Alors tu pourrais te poser la question, pourquoi la gigafactory est à l'Est et pas en Bretagne ? Tu as la réponse ?
Alors il y en a une en Alsace. Hein,
en Alsace, oui. À l'Est. Pourquoi ? Et pourquoi pas en Bretagne ?
Les centrales nucléaires.
Voilà.
Voilà.
Voilà. Il ne peut pas y en avoir parce que c'est la seule région de France qui n'a pas de centrale nucléaire, par opposition de la population, c'est la Bretagne. Donc on ne peut pas avoir de gigafactories, qui sont très intenses énergétiquement, en Bretagne. Donc là, c'est un centre de recherche, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Hein, et donc on doit saluer, je dirais, l'esprit entrepreneurial de Vincent Bolloré et de sa famille, d'une certaine façon. Non, moi, j'ai une question plus générale. Est-ce qu'au fond, on ne commet pas une erreur majeure ? Est-ce que ça a du sens d'aller challenger l'empire du milieu sur la voiture électrique ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'on ne prend pas un risque, au fond ?
On va citer Carlos Tavares dans un instant, qui disait autre chose hier soir. Hein.
Oui, est-ce que ça a du sens ? Ou est-ce qu'au fond, on n'est pas... Un autre choix possible, c'est d'abandonner la partie. C'est-à-dire qu'au fond, la spécialisation, la position, c'est pas ce que je choisis, la position... Il y a eu une annonce de l'AIE, l'organisation
de l'Agence internationale
de l'énergie, qui est très, très inquiète sur la consommation des matières premières, justement, pour la transition énergétique. Ouais. Et notamment dans leur argumentaire, ils disent que la position chinoise sur toute une série de matériaux est absolument spectaculaire. Sur certains matériaux, c'est 50, et ça va sur certains types de matériaux jusqu'à 90, c'est-à-dire matière première plus raffinage. Donc, au fond, est-ce que la position de l'empire du milieu, est-ce que la partie n'est pas d'ores et déjà jouée ? Ça serait défaitiste de le penser. Donc, manifestement, la France pense le contraire, puisqu'elle a une industrie automobile, même qui est déclinante. Je rappelle que l'industrie automobile, la production industrielle, déclinante, mais la production industrielle automobile est inférieure de 33% à ce qu'elle était pré-Lehman Brothers, et elle est inférieure de quasiment 22%, t'entends bien, 22% post-Covid. Donc, est-ce que ça a du sens ? Est-ce que nous, on ne va pas s'user ? Est-ce qu'au fond, il ne faut pas jouer une autre spécialisation ?
On écoute, ouais. Hein,
c'est ça la... Moi, j'avoue être un petit peu inquiet quand je vois la consommation budgétaire qui est à la clé et la faiblesse des créations d'emplois. Parce que ce qu'on nous raconte sur les créations d'emplois, c'est relativement faible.
D'emploi, d'accord. Hein,
on a détruit, je termine, hein, on a détruit post-Lehman Brothers, sur la partie uniquement industrielle, on a détruit pas loin de 450 000 emplois industriels. On a recréé depuis 2017, donc l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a créé à peu près 120 000 à 140 000 emplois industriels. Donc ça veut dire qu'on a recréé un quart, d'accord. Et j'ai l'impression qu'on va consommer. Voilà, j'émets juste un petit, un petit doute.
Voilà,
je dis pas que c'est une mauvaise chose. J'émets un doute. Voilà, c'est tout.
Nicolas Marquès.
Oui, effectivement, Bruno Le Maire a cité 230 créations d'emplois et 1500.
1500 en Alsace.
On est dans l'anecdote. Hein. L'emploi industriel en France, il est à 3 400 000 personnes, quand on prend les salariés et non salariés aujourd'hui, comme en 2012. Hein. Et donc l'emploi industriel, il a fait ça. Il s'est stabilisé. La valeur ajoutée de l'industrie, c'était 28% en 49, c'est 14% aujourd'hui. Alors, il y a des phénomènes externes parce que beaucoup d'industriels ont externalisé une partie et ça se retrouve dans les services. Mais toujours est-il que clairement notre emploi industriel il stagne. Et nous, à Molinari, on voit deux choses qui faut faire pour le faire repartir. La première, c'est réellement traiter le sujet des impôts de production, parce que concrètement, en France, on a encore une fiscalité sur l'outil de production, donc, et on y va très, très, très lentement. En 2022, dernière donnée disponible de l'INSEE, la France, c'était 12% de la production industrielle en Europe et 47% des impôts de production. Donc on avait 4 fois notre dose. Donc on ne peut pas être compétitif. Alors on a fait des choses, c'est bien, mais en fait on n'est pas allé jusqu'au bout. Le bout, c'est quoi ? C'est dire aux collectivités locales qui touchent les impôts de production, on va être grand, on va vous partager l'impôt sur les sociétés, on va vous partager la TVA, parce que ces impôts, ils sont pas distorsifs. Ces impôts, ils détruisent pas l'emploi, parce que l'impôt de production, quand votre production diminue, il se dégonfle pas.
Oui, oui, bien sûr.
Tandis que l'IEF, l'impôt sur les sociétés, il se dégonfle.
Vous voyez le cirque pour étaler quelques milliards de fins de CVAE, vous voyez le cirque que ça
dégonfle. Exactement. Et donc, il y a un problème de méthode, parce que le gouvernement, il cherche à déplacer l'argent, mais il faut voir les collectivités locales, il faut leur dire, on va vous donner une partie de l'impôt sur les sociétés, c'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en Espagne, c'est ce qui se fait dans tous les grands pays. Et il y a un autre problème, c'est que notre industrie, à l'origine, elle avait des capitaux. Si on a été les premiers avec les Anglais dans la première révolution industrielle, c'est parce qu'on avait drainé l'épargne des campagnes. Et cette épargne, elle avait financé les canaux, les chemins de fer, les Schneider et autres. Et en Europe, il nous manque 10 000 milliards d'épargne longue. On a un déficit en France, parce qu'on n'a pas de fonds de pension, mais on l'a aussi en Allemagne. Alors jusqu'à présent, ils avaient leur capitalisme de grande famille, mais on voit bien qu'ils ratent toutes les innovations technologiques. On l'a en Italie avec les petites PME, mais on rate toutes les innovations technologiques. Si on est nulle part dans la transition numérique, si on est nulle part dans la transition énergétique, c'est parce qu'on n'a plus de capital. Oui. Et donc, trop de fiscalité, pas de capital, vous n'avez plus d'industrie.
François Gérolf.
Je partage les interrogations de Xavier. En tout cas, il faut être sûr, si l'État se met à choisir les secteurs stratégiques dans lesquels il faut qu'on soit demain, etc., il faut espérer qu'au ministère, on ait aussi les moyens à la fois humains.
Il fait des non-choix, puisqu'il fait des choix, mais sans mettre l'argent et les sommes qui vont avec.
C'est ce qu'on appelle des non-choix. Là, quand même, on va dépenser un petit peu d'argent, je pense.
Oui, mais pour très, très peu, comme le disait Xavier.
Bah, pour très peu d'emplois, oui. Après, il y a la question du coût de l'emploi, effectivement, par argent public. Mais quand même, je pense que si on veut un État planificateur et régulateur, et qui choisit les secteurs, effectivement, on le faisait très bien dans le passé. Donc moi, je suis pas dans la vision libérale, on va dire, que l'État doit s'écarter complètement. Oui. Sur le nucléaire, on l'a très bien fait, mais c'est vrai qu'on avait dans les ministères des spécialistes des techniques, du secteur, de est-ce que la France peut rattraper son retard, effectivement, du point de vue technologique. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a acheté une licence à Westinghouse, par exemple, sur le nucléaire, parce qu'on s'est dit, on rattrapera jamais. Faut juste qu'on soit sûr, et je pense qu'ils ont des leçons à recevoir de personnes, mais il faut être sûr de mettre en face effectivement des moyens humains à Bercy, à la Direction Générale des Entreprises, par exemple, pour être sûr qu'on est dans les bonnes technologies.
Alors, écoutez, Carlos Tavares, c'est la petite phrase hier soir de Carlos Tavares chez nos confrères de France 2, qui lui a dit déjà, on ne peut pas jouer contre les Chinois. D'ailleurs, eux vont chez Stellantis, vont s'allier avec les Chinois et commencer à breveter l'Europe à partir de septembre prochain en petite voiture électrique conçue avec leur partenaire chinois qui s'appelle Leapmotor. Et il commentait hier, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, la décision de Joe Biden justement de surtaxer les véhicules électrique chinois qui arrive aux États-Unis. Ouais. Il dit que ce n'est pas du tout la bonne solution. Écoutez Carlos Tavares hier soir.
Je pense que c'est un gros piège.
Ah bon ?
Oui, parce que lorsque vous mettez une bulle autour d'un marché, qui peut être le marché américain ou le marché européen, la première chose que vous créez, c'est une énorme inflation à l'intérieur de la bulle. Et si vous créez une énorme inflation à l'intérieur de la bulle, vous portez atteinte au pouvoir d'achat des classes moyennes, dont leur liberté de mouvement, et vous accentuez le retard technologique des constructeurs qui sont à l'intérieur de la bulle par rapport à ceux qui sont en train de conquérir le monde.
Ça veut dire qu'on n'a aucune... on n'imagine pas que des constructeurs français, européens, puissent s'aligner sur ces prix-là, en fait.
Si, vous pouvez parfaitement imaginer cela. Simplement, vu la vitesse qui nous est imposée, cela a de grandes conséquences sociales.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce qu'il faut réduire les coûts dans des proportions qui sont liées au surcoût de l'électrique qui est de 40% par rapport au thermique. Et faire 40% de productivité en quelques années, je peux vous dire que dans notre industrie, c'est pas facile.
Donc le sens de l'histoire, c'est de marcher avec les Chinois, c'est pas d'essayer de les concurrencer. Non, mais tout simplement,
honnêtement, quand les historiens on sera plus là, mais quand les historiens regarderont...
Attendez.
Non, mais on sera plus là, je parle pour moi. Donc, mais quand les historiens regarderont la situation, ils seront éberlués. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Européens ont mis en place le Green Deal, mais il avait des ancêtres avant, ont mis en place une stratégie des accords de Paris, d'une certaine façon, de décarbonation, notamment de la mobilité. Et ceux qui la déclinent, je l'ai dit, mais je le répète, ceux qui la déclinent industriellement, c'est le secrétariat du Parti communiste chinois. Donc, c'est ça qui est aberrant. Moi, je ne comprends pas comment l'Europe, l'Union européenne, que l'Union européenne ait cette ambition, dont acte, mais à ce moment-là, elle prévoit les effets collatéraux pour son industrie. Elle prépare le travail et elle combine. Là, on a une décision politique, au fond, la décision, le Green Deal et tout ce qui s'ensuit, est une décision qui est une décision un peu punitive. Hein, c'est vertueux, punitif contre Volkswagen.
Perçu comme tel, oui.
On est en train de détruire notre base industrielle, industrielle automobile, et ceux qui vont tirer les marrons du feu,
ce sont les Chinois.
Ce sont les Chinois, parce qu'eux, ils sont passés à la génération suivante. Oui, et donc, moi, c'est ça qui me frappe. Et donc, après, dire, effectivement, qu'on doit faire des gains de compétitivité de 40% et qu'au fond, on va réduire, détruire la base d'emploi, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Parce que si tu regardes bien la chronique des ajustements d'emploi au niveau européen, on voit bien qu'il y a deux secteurs qui sont très contributifs, les secteurs à haute intensité énergétique, notamment la chimie allemande, mais pas que, et surtout, toute la myriade du secteur automobile allemand et de ses équipementiers. Donc, moi, c'est ça qui m'embête, c'est-à-dire qu'on a choisi une ambition mais on n'a pas mesuré les effets collatéraux, l'impact des évaluations. Et donc, je crains que ce qui n'ait pas été fait au niveau de l'Union européenne, l'a encore moins été fait au niveau national. Et ça, pour le coup, c'est inquiétant, parce que si on choisit une position vis-à-vis de nos opinions publiques, il ne faut pas s'étonner que le 9 juin prochain, à ce moment-là, on ait l'opinion publique, des opinions publiques européennes qui tirent le signal d'alarme et qui disent stop. Elles disent pas stop contre la décarbonation, elles disent stop contre le chemin qui est suivi, un chemin destructeur du point de vue social.
François, et puis ensuite, François, très vite. Et puis
je suis entièrement d'accord. Le paradoxe, c'est que ça vient à la fois d'une vision bureaucratique et libérale. C'est-à-dire qu'on a voulu à la fois mettre des objectifs très ambitieux pour les industriels. Je pense que les industriels n'y ont pas vraiment cru, en fait. Ils se sont dit, ils vont repousser les échéances. On ne l'a pas fait.
C'est ce qui arrivera.
Alors voilà, pour le moment, on ne l'a pas fait, mais c'est un pari qu'ils ont fait. Ouais. Et effectivement, du coup, comme on a refusé de mettre quand même des subventions, de faire de la politique industrielle, d'organiser les acteurs, de leur dire effectivement, faites quelque chose et reconvertissez-vous. C'est vrai que les Chinois, ils ont quand même beaucoup plus d'intervention publique. Et là, ce qui est discuté actuellement, c'est le fait de mettre des tarifs anti-dumping.
Oui, mais nous, on en est au stade de faire des enquêtes simplement.
Il y a des subventions chinoises.
Qui sont pas... Oui, Nicolas Marquez.
J'ai envie de dire que c'est pire, François. On a fait l'affichage. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé les questions, on a dit on y va. Je vous donne deux exemples. D'abord, on a dit on va faire de l'électrique parce que l'électrique, c'est vert. Mais le seul électrique vert n'est pas intermittent, c'est le nucléaire. Et dans le même temps, l'Europe disait on ne va pas construire des nouvelles centrales nucléaires. Le nucléaire, pour vous donner un chiffre, depuis qu'on l'en fait en France, on a économisé 25 fois les émissions de CO2 de 2022 grâce au nucléaire. Et c'était clé. Le 14 juillet, quand les Français partent en vacances, ils ne veulent pas dépendre d'une énergie intermittente. Et donc, clairement, oui, à l'électrique, mais il fallait se dire, on investit dans le nucléaire.
Mais ça, c'est un désaccord entre la France et l'Allemagne.
Deuxième exemple, qui là dépasse la France et l'Allemagne. On a dit, c'est la voiture qui va être électrique. Mais la voiture, elle est problématique, parce que la voiture, elle fait un pic de charge, et elle a deux utilisations. Elle a une utilisation urbaine, il n'y a aucun problème pour l'électricité, mais quand vous partez en vacances le 14 juillet, et que vous faites 900 km, vous êtes dans la panade. Et donc, les premières choses qu'on aurait dû électrifier, c'est les véhicules utilitaires. Pourquoi les véhicules utilitaires ? Parce que les véhicules utilitaires, ils font toujours le même trajet, c'est très régulier, il n'y a pas de pic de charge. Ouais. Vous rentrez à l'atelier, vous avez la prise, vous le branchez, et ce n'est pas anecdotique. Les véhicules utilitaires, alors quand on intègre aussi les camions, c'est 40% des émissions de mobilité. Mmh. Et donc, clairement, on a dit, on va faire de l'affichage, ça doit plaire aux Français, on doit les éduquer, certains disaient les rééduquer, et on est rentré là-dedans, et c'est du n'importe quoi.
Voilà, et on verra ce qui leur sortira le 9 juin, effectivement, lors de prochain scrutin des élections européennes. On n'a pas le temps de parler de la SNCF, de la RATP, vous avez vu que la RATP regarde très près l'accord qui est passé à la SNCF, là sur l'accord d'aménagement des fins de carrière, on en parlera une autre fois, 3 minutes, c'est l'extra time, comme tous les soirs sur BFM Business. Vos avis du soir, coup de gueule ou coup de cœur, ou 30 secondes chrono comme tous les soirs. Qui va commencer ? C'est François qui va commencer. Allez, 30 secondes François, c'est à vous.
Eh bien, une inquiétude, on va dire, plutôt qu'un coup de gueule, sur les défaillances d'entreprises qui, hors micro-entreprises, sur un an, sont à un plus haut historique depuis que la Banque de France, les chiffres sont sortis hier. Et donc, c'est quand même assez inquiétant parce que on arrive assez mal à le comprendre. Ça pourrait être juste le fait qu'au moment du Covid, on a eu moins de défaillances d'entreprises et donc c'est juste un rattrapage. Mais il y a aussi une inquiétude que les prix énergétiques quand même pèsent de plus en plus sur les entreprises. Et donc une grosse inquiétude sur le chômage et potentiellement des difficultés économiques qui viennent.
Voilà le point ce soir de François Girol sur BFM Business. Nicolas Marquez, à vous, 30 secondes mon cher Nicolas.
Oui, alors je vais reboucler avec la voiture électrique. Alors. Et je vais vous parler d'une petite structure qui s'appelle EP Thunder qui a réfléchi au pic de charge. Donc votre petite voiture électrique, quand vous partez faire vos courses ou aller chercher les enfants à la sortie de l'école, c'est parfait en centre-ville. Ouais. Mais quand vous partez en vacances, ça va plus du tout parce que la batterie, elle va pas. Et donc l'idée, c'est de remorquer son moteur thermique traditionnel qui vous fait l'électricité. Et le drame, il est bien français, c'est que l'idée, elle est géniale. mais elle n'arrive pas à se financer.
Elle arrive pas à se financer.
On serait aux États-Unis, EP Thunder, ça serait déjà en train de passer à l'échelle. Ouais. En France, il faut chercher 10 millions d'euros c'est pour arriver à produire parce qu'on n'a plus de capital.
EP Thunder, ça s'appelle.
EP Thunder.
Le coup de cœur ce soir de Nicolas Marquez. Xavier Patrolin, 30 secondes à vous, Xavier, pour finir.
C'est un coup de cœur un peu dans le cannois, si j'ose dire. C'est pour la venue de Francis Ford Coppola au Festival de Cannes et la présentation de son dernier film, Mégalopolis. Et au fond, c'est j'ai une tendresse assez, parce que c'est un metteur en scène qui m'a beaucoup inspiré. Et voilà, il fait un film assez remarquable. Je ne l'ai pas vu, hein, mais remarquable dans son financement. C'était un autofinancement. Il finance ça sur ses deniers personnels. C'est probablement son film le plus jeune, d'une certaine façon, peut-être le plus imparfait. Il s'intéresse à quelque chose de profond à l'aune des échéances électorales américaines, au fond de ce qu'il a toujours intéressé, c'est-à-dire la tectonique des plaques de la société américaine. Et il le raconte au travers d'une histoire un peu de l'Antiquité, mais revue à la sauce Coppola, modernisée. Et je trouve que c'est un luxe
de pouvoir s'autofinancer aujourd'hui en 2024.
Et je trouve qu'il est à la fois 85 ans, mais très jeune encore.
On l'a vu hier, d'ailleurs, avant-hier, monter les marches à Cannes. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. François Girolf, économiste à l'OFCE, Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut économique Molinari. Merci messieurs, à très vite avec plaisir pour nouvelles aventures. 18h56, dans un instant le journal. Et puis les pionniers chez Fred Mazzella avec Renaud Capuçon ce soir en invité. Puis nous on se retrouve lundi bien sûr 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end, à lundi.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.